Chapitre 6. Les deux solutions. Les voyageurs s'installent autour des tables. Poirot se lève. Le chef du wagon demande. « Puis-je rester, monsieur ?»«
Bien sûr, Michel. »
Poirot commence. « Nous sommes ici pour rechercher la vérité sur l'assassinat de Samuel Edward Ratchett, de son vrai nom Cassetti. Il y a deux solutions. Je vais les exposer devant vous et je demanderai ensuite à monsieur Book de dire laquelle est vraie. On a tué M. Ratchett ce matin à coups de couteau. Nous savons qu'il vivait encore à 00h37 la nuit dernière, puisqu'il a parlé à Michel à travers la porte. Sur cette montre brisée, trouvée dans la poche du pyjama de la victime, les aiguilles marquent 1h15. Le docteur Constantine situe la mort entre minuit et 2h du matin. À 00h30, comme vous le savez tous, la neige bloque le train. Donc, après cette heure, personne ne peut quitter le train. Le meurtrier se cache parmi les voyageurs de notre wagon. Mais je vous propose une seconde solution. M. Ratchett a décrit à M. Hardman un homme qui le menaçait. Or, à un moment, le colonel Arbuthnot et M. McQueen sont descendus sur le quai et ont laissé la porte ouverte. Un individu, qui a mis un uniforme de la compagnie des wagons-lits et possède un passe-partout, monte dans le train, puis va dans le compartiment de M. Ratchett qui dort. L'assassin le frappe plusieurs fois, puis quitte le compartiment par la porte communiquant avec le compartiment de Mrs. Hubbard. L'homme glisse le couteau dont il s'est servi dans la trousse de toilette de Mrs. Hubbard et perd un bouton de sa tunique. Il sort du compartiment et longe le couloir. Il enlève son uniforme dans un compartiment vide et le met dans une valise. Quelques minutes plus tard, avant que le train reparte, il descend.
« Mais que dites-vous de la montre ?» demande M. Hardman.
M. Ratchett a oublié de retarder sa montre qui marquait l'heure orientale, en avance d'une heure sur celle de l'Europe. On a assassiné M. Ratchett à 00h15 et non à 01h15. L'assassin a pu quitter le train avant son arrêt à cause de la neige.
« Votre explication ne fonctionne pas !»
s'écrie M. Book.
« Non, non et non ! Le crime ne s'est pas passé ainsi. Vous le savez aussi bien que moi, M. Poirot !»
ajoute le docteur. « Je vois que je dois revenir à ma première solution. Mais n'oubliez pas cette solution. » Poirot se retourne vers les voyageurs. « Après avoir écouté vos témoignages, je me suis assis et j'ai fermé les yeux pour réfléchir. J'ai repensé à ce que M. Book m'a dit au déjeuner après notre départ. Les voyageurs réunis dans ce train sont de nationalité et de conditions sociales très différentes. J'ai trouvé ce fait bizarre et je me suis demandé où cela pouvait arriver. Aux États-Unis. Dans une famille américaine, on peut trouver un chauffeur italien, une gouvernante anglaise, une nurse suédoise, une femme de chambre française, etc. J'ai alors cherché pour chaque voyageur un rôle dans la famille Armstrong. Commençons par l'interrogatoire de M. McQueen. Quand je lui ai parlé de la découverte d'un morceau de papier brûlé avec le nom d'Armstrong, il a dit « Pourtant… » Puis après une hésitation, enfin je veux dire, le vieux était imprudent de laisser traîner ses secrets. McQueen connaissait l'existence de ce billet et sa destruction. Il était ou le meurtrier ou le complice de celui-ci. Aidant. Ensuite, le valet de chambre. Il a dit que son maître a pris un somnifère. Croyez-vous que Ratchett, qui se savait menacé, voulait dormir? Le revolver sous son oreiller montre le contraire. Si on lui a donné un somnifère, c'est à son insu. Qui l'a fait sinon McQueen ou le valet de chambre? Venons-en au témoignage de Hardman. Regardons sa méthode pour protéger M. Ratchett. La bonne méthode était de passer la nuit dans son compartiment. Il ne l'a pas fait. Vous devez savoir que j'ai entendu une conversation entre Miss Debenham et le colonel Arbuthnot. J'en ai conclu qu'ils se connaissaient depuis longtemps. Passons maintenant à Mrs. Hubbard. Cette dame dit que de sa couchette, elle ne peut voir si la porte de communication est fermée ou non. Mais dans les numéros impairs, comme le numéro 3 qu'occupait Mrs. Hubbard, le verrou se trouve au-dessus de la poignée. La trousse de toilette ne peut pas le cacher. Je me suis souvenu que McQueen m'a dit deux fois que Ratchett ne parlait pas français. J'ai alors compris que ce qui s'était passé à 00h37 était une comédie. J'allais dire que Ratchett ne parlait pas le français et qu'il était déjà mort à 00h37. Mais je pense qu'il est mort vers 2h. Qui l'a tué ? Il y a une chose bizarre. Un voyageur confirme toujours l'alibi d'un autre voyageur. Ainsi, M. McQueen et le colonel Arbuthnot, qui étaient ensemble. Même chose pour le valet de chambre anglais et l'italien, la demoiselle suédoise et la jeune anglaise. Soudain, j'ai compris. Tous les voyageurs étaient coupables. Cette fois, la réunion de personnages de toutes conditions et de toutes nationalités, à une époque où le train est vide, s'expliquait. Cette solution explique aussi la nature des blessures, très différentes. L'histoire de Hardman, chargé par Ratchett de le protéger. Un mensonge. Le signalement, petit homme brun à la voix de femme. Voici comment j'imagine la scène. Chaque voyageur entre à son tour dans le compartiment de Ratchett, après avoir traversé le compartiment de Mrs. Hubbard, et frappe. Pas de souci. On va croire à un meurtrier venu du dehors, le petit homme brun à la voix de femme. Mais il y a la neige. L'assassin n'a pas pu sortir. On va soupçonner quelqu'un dans le train. Les voyageurs décident alors d'embrouiller le détective. On laisse un cure-pipe dans le compartiment du mort, mais on ne pourra pas accuser le colonel, car il était avec McQueen. On laisse un mouchoir, mais on ne pourra pas accuser la princesse, car elle n'a pas de force. Et pour compliquer les choses, on fait passer une femme avec une robe de chambre rouge. Mais quand les voyageurs apprennent que j'ai lu le mot Armstrong sur le papier, le comte et la comtesse doivent maquiller le passeport. Je pense que le chef du wagon a lui aussi frappé le mort. Je me suis souvenu que la bonne d'enfant était française. Et si c'était la fille de Pierre Michel? Je pense aussi que le colonel Arbuthnot était un ami du colonel Armstrong. Ils ont sans doute fait la guerre ensemble. J'ai par ailleurs tendu un piège à la femme de chambre Hildegarde Schmidt. « Je sais que vous êtes une bonne cuisinière, lui ai-je dit. » Et elle a dit oui. Elle était cuisinière chez les Armstrong. Ensuite vient Hardman. Je pense qu'il était fiancé avec la jeune Française. Reste Mrs. Hubbard. Pour jouer aussi bien le personnage un peu ridicule de la femme américaine, il faut être une grande comédienne. Une artiste existe dans la famille Armstrong, la mère de Mrs. Armstrong, Linda Harden. Poirot s'arrête. Alors, d'une voix merveilleuse qui ne ressemble pas à la voix qu'on a entendue au cours de la journée, Mrs. Hubbard dit « Monsieur Poirot, je vous admire. Vous avez raison. Mais imaginez ce jour terrible. Quand Ratchett a échappé au procès, nous avons décidé de le punir nous-mêmes. Hardman nous a aidés à retrouver Ratchett. Ensuite, le valet et McQueen ont réussi à travailler pour lui. Hector nous a appris que Ratchett voulait aller à Paris par l'Orient Express. Pierre Michel travaillait sur ce train. Nous avions de la chance. Mais à la dernière minute, vous êtes arrivé. À présent, Monsieur Poirot, vous connaissez toute l'histoire. Qu'allez-vous décider? J'aimerais être la seule coupable. Pourquoi punir tous ces braves cœurs? Ce pauvre Michel, Mary et le colonel Arbuthnot, ils s'aiment. Poirot regarde son ami. En tant que directeur de la compagnie, qu'en pensez-vous, Monsieur Book?
Selon moi, mon cher ami, votre première solution est la bonne. Quand la police arrivera, nous lui donnerons un rapport qui va dans ce sens.
J'ai donc l'honneur, mesdames et messieurs, de me dessaisir de cette affaire, termine Poirot.